Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Salut, c'est Victoire Tuillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 000 lieues sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair dans Le cœur sur la table.
Quand on grandit dans un pays comme la France, on s'aperçoit assez rapidement de la diversité ethnique qui existe. Des populations blanches, arabes, asiatiques, noires, etc. grandissent ensemble, vont à l'école ensemble, vivent ensemble, travaillent ensemble. Et pourtant, l'imaginaire français global reste assez uniforme, si on peut dire. En tant que femme noire, j'ai souvent eu du mal à me voir, à me reconnaître dans les médias, les films ou les séries de mon propre pays. L'invisibilité des populations non blanches de France pose une question. Combien sont-elles ? Car si on n'est pas représenté, c'est qu'on n'existe pas, non ? Bien sûr, il y a les actualités, où on entend parler de discrimination raciale, de crimes racistes. Mais comment imaginer leur ampleur ou leur importance sans données chiffrées ? C'est là qu'entrent en jeu les statistiques ethniques. Ces deux mots, statistiques ethniques, font débat depuis plusieurs décennies en France, voire provoquent des polémiques. Pourtant, contrairement à ce qu'on entend souvent sur le sujet, on peut en réaliser et on peut même en utiliser. Mais dans notre République, elles font peur. La perspective de classer les gens selon leur ethnie ou leur race rappelle des mauvais souvenirs. Alors, les statistiques ethniques sont-elles possibles en France ? Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Hervé Lebras est démographe, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, membre fondateur de la commission alternative de réflexion sur les statistiques ethniques et les discriminations. Il est l'auteur de plusieurs articles et tribunes dans lesquels il met en doute la nécessité des statistiques ethniques en France. Mais déjà, pour commencer, les statistiques ethniques, qu'est-ce que c'est et comment ça se passe chez nous ?
Les statistiques ethniques, ça consiste à catégoriser les individus à partir de leur origine ou bien à partir de leur apparence physique. Donc c'est deux grands types de statistiques ethniques. L'apparence physique compte beaucoup dans un pays comme le Brésil. Les origines comptent, par exemple, dans un pays où c'est pas ethnique, on dit nationalité, comme la Russie. Et un petit peu aussi comme l'Angleterre. Voilà pour la définition. Alors c'est appliqué dans, vous le savez, dans un certain nombre de pays avec des variantes très grandes, c'est aux États-Unis, au Brésil que j'ai cité, en Angleterre, et puis dans les pays de l'Est, mais essentiellement c'est pour mettre à part les Roms, ce qui pose aussi beaucoup de problèmes. Donc au fond, dans certains cas, l'argument est de dire c'est pour lutter contre les discriminations, et dans d'autres cas, l'argument est au contraire de discriminer des groupes particuliers comme les Roms. Donc il y a une grande ambiguïté. Alors, la situation de la France, elle a été débattue à la fin du quinquennat de Sarkozy. Il y a eu une commission qui avait pour but, Sarkozy était pour, d'introduire des statistiques ethniques qui s'appelait la COMED. Et avec Elisabeth Badinter, on a fondé une contre-commission qui s'appelle la CARCED, qui était plutôt opposée à l'usage de statistiques ethniques en France. Et au fond, les deux commissions sont arrivé à un résultat qui était paradoxalement assez voisin, c'est-à-dire qu'elles ont découpé les statistiques ethniques en tranches. Il y a les statistiques au niveau national, donc c'est à travers les recensements, les deux commissions étaient contre. Et puis, il y a les statistiques au niveau des enquêtes sociologiques, des monographies. Là, les deux commissions sont pour. Et chacun a le droit, en fonction du but poursuivi, de choisir des caractérisations ethniques dans une monographie. Et entre les deux, il y a des grandes enquêtes, comme on fait l'INSEE. Ceux qui étaient de la Comet, qui étaient plutôt pour les statistiques ethniques, étaient pour ce genre d'enquête. Et ceux qui étaient donc de mon côté plutôt hostile, était contre ce genre d'enquête. Donc, si vous voulez, l'opposition était assez minime. Et au fond, grosso modo, la France reste opposée aux statistiques ethniques du genre, par exemple, américain, où dans le recensement, vous avez deux questions. Une question ethnicity, c'est-à-dire quelle est ethnicity, ça sert essentiellement pour les latino-américains, pour les séparer des autres. Et puis race, le mot race n'a pas le sens aussi péjoratif aux États-Unis qu'en France.
Oui, c'est le sens sociologique. Ouais. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, vous parlez, vous, d'une impossibilité de définir des catégories ethniques indiscutables en raison notamment de la mixité des origines. Donc, mettons que si on voulait mettre en place ces statistiques de manière, on va dire, régulière, récurrente, vous dites qu'il y a une impossibilité parce qu'on ne peut pas vraiment définir son héritage. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Non, l'argument de la mixité, on a cet argument de la mixité, mais disons l'argument principal qui était partagé par Elisa Badinter, moi et un certain nombre d'anthropologues qui étaient comme Jean-Louis Hamsel, par exemple, qui était dans la commission CARCED, c'était si on institue des statistiques ethniques à travers un recensement, ça devient performatif, c'est-à-dire que les personnes s'identifient obligatoirement et de plus en plus à des groupes. On voit que c'est le cas aux États-Unis, ça a été le cas en Afrique du Sud par exemple, où quand Mandela est arrivé au pouvoir, il a supprimé les catégories de l'apartheid. Et 15 ans après, elles ont été rétablies en Afrique du Sud, dans la statistique de l'Afrique du Sud, parce que les personnes continuent de s'identifier à ce groupe. Autrement dit, on pensait à l'époque, puisque la question est moins à l'ordre du jour, on pensait que on simplifiait les identités, si vous voulez, en créant des statistiques ethniques. On amenait les personnes à s'assimiler à des groupes très larges et au fond au détriment d'autres caractéristiques des personnes. L'argument de la mixité, il vient en second. C'est un argument qui est plus complexe. Par exemple, vous savez qu'en Afrique du Sud, d'ailleurs, mais aussi au Brésil, il y a une catégorie pour les personnes d'origine dite mixte. Mm-hmm. C'est un argument qui est... La mixité est compliquée.
Le métissage,
elle dépend de la manière dont on administre le recensement. Dans un recensement, vous avez deux manières. Vous avez une manière qui est, en quelque sorte, extérieur, c'est une personne, c'est l'agent recenseur qui vous met dans telle ou telle race. C'est ce qui se passait aux États-Unis jusque dans les années 50.
Ben, aux États-Unis, ce qui se passe aussi, c'était la règle de la goutte de sang. C'est-à-dire que si on avait une goutte de sang noir, on était noir.
Ensuite, c'était dans les procès. C'était la one drop rule.
Exactement.
Absolument. Mais c'était au cas où... c'était d'ailleurs une règle qui aboutissait à des... au contraire de la manière dont on caractérisait, puisque il y a un procès très célèbre d'une jeune femme blonde aux yeux bleus qui avait un arrière-grand-père
un ancêtre noir
et donc qui a été classé noir. Et la même chose, la même au fond dérive a eu lieu en Afrique du Sud. Mais en Afrique du Sud, pour éviter cela, on interdisait, vous le savez, les mariages inter-catégories.
L'identité, je pense que chaque personne a plusieurs identités au final. On peut être homme breton, on peut être professeur, parent. Et du coup, par exemple, on catégorise les genres, c'est-à-dire on dit il y a tant d'hommes en France, tant de femmes en France. Pourquoi pensez-vous que ce serait différent de catégoriser l'origine des personnes en fait c'est une partie de l'identité aussi, non ?
Il faut savoir quel est le but poursuivi.
Quel est le but poursuivi de catégoriser les hommes et les femmes ?
C'est parce qu'il y a des inégalités entre les hommes et les femmes qui sont très fortes. C'est aussi pour cela qu'on les a catégorisées. Donc là,
et il y a aussi des inégalités peut-être dans...
Oui, il y a des inégalités aussi, mais il y en a aussi de nombreuses autres formes. Ouais. Alors on peut dire pour les hommes et les femmes que c'était peut-être plus évident la différence entre hommes et femmes, encore que, comme vous le savez, c'est discutable, puisqu'on introduit de plus en plus souvent une troisième catégorie. Donc, mais disons, quand on a fait la catégorie homme-femme, il me semble que là, il y avait une certaine facilité, alors que ensuite, une fois qu'on pose la question des catégories ethniques, effectivement, il faut choisir des catégories. Il faut dire, voilà, alors on peut prendre des catégories comme métis, noir, jaune au Brésil, ou on peut prendre des catégories comme indien du Bangladesh, indien.
On peut aussi demander aux gens comment ils se.
C'est ce qu'on appelle le ressenti d'appartenance.
Oui, c'est ça.
Mais le ressenti d'appartenance, c'est variable, et là-dedans, les résultats ont été quand même beaucoup commentés parce que il y a beaucoup de changements. Vous me direz, on peut changer de catégorie si on le désire, mais à ce moment-là, ça perd de son sens. On ne voit plus très bien en termes notamment de, par exemple, de discrimination positive. Ça devient compliqué parce que on peut penser que si on a le choix complet de la catégorie, on choisira une catégorie qui vous donne un avantage en termes de discrimination positive.
Après, il faudrait peut-être pouvoir prouver aussi qu'on a des ancêtres ou des ascendants qui.
Non, ça c'est autre chose. C'est si on a on revient sur la one drop rule. Là, dans le cas du ressenti d'appartenance, on choisit soi-même la catégorie à laquelle on appartient. On a, peu importe vos ancêtres, peu importe même votre apparence physique, peu importe votre origine, c'est un choix qu'on fait. Et après tout, bon, je trouve que c'est peut-être plus naturel, mais vous parliez des hommes et des femmes, et de la même manière, on pourrait dire pourquoi est-ce qu'on assigne aux personnes un âge ? On pourrait dire, bon, après tout, dans un recensement, on pourrait demander aux personnes, non pas l'âge qu'ils ont, mais l'âge ressenti.
Non, mais c'est vrai que là, du coup, quand je parlais du genre, je parlais aussi de cette qui est recensée, et je pense aussi qu'on recense les gens sur leur âge. Et voilà, je me posais juste la question de pourquoi ce recensement-là et pas l'autre.
Oui, vous le savez mieux que moi certainement, mais genre et sexe, c'est pas exactement la même chose. Donc là, il y a un petit côté dans le sexe qui est, je dirais, biologique. Alors en même temps, il faut se méfier parce que certains, notamment au Brésil, ont une approche biologique. Il y a un livre tout à fait intéressant d'Edouard Télès qui s'appelle « Pigmentocratie », où il est demandé d'analyser avec les pigments, de classer selon l'importance des pigments mélaniques, donc des pigments noirs, de créer des catégories de ce genre-là. Donc, quelquefois, on est à la frontière du biologique dans ce cas-là. Par contre, quand on distingue comme les Anglais, les Indiens de l'Inde et les Indiens du Bangladesh et les Indiens du Pakistan, il y a trois catégories, là, on sort complètement du biologique.
Vous disiez que vous étiez plutôt contre. Ma question, c'est quels résultats et quelles actions on pourrait mettre en place si on faisait ces statistiques de manière établie, récurrente ? Qu'est-ce que vous pensez comme dérive qu'il pourrait y avoir ?
Si vous voulez, la grande action qui a été mise en place, ça a été l'action de discrimination positive aux États-Unis. Ça n'a pas donné de grands résultats. On pense aussi qu'il y a des. D'ailleurs, les États-Unis viennent progressivement qu'il y a des méthodes alternatives, notamment au lieu de cibler les personnes selon la catégorie ethnique, de les cibler selon le lieu de résidence. Et c'est beaucoup plus libre d'une certaine manière parce que vous ne pouvez pas changer de couleur de peau si elle est accentuée, mais vous pouvez changer de lieu de résidence. Souvent, vous êtes assigné par votre pauvreté ou par le type de travail, mais il y a une possibilité de changement. Et c'est une différence quand même importante. Et donc, de plus en plus, au fond, la politique française a été une politique de discrimination, non pas ethnique, mais selon le lieu de résidence. C'est les quartiers prioritaires, et puis ce qu'il y avait précédemment pour les quartiers d'éducation prioritaires auparavant, et ainsi de suite. Donc c'est plutôt la voie française qui a été suivie.
Alors, cette vision selon laquelle les statistiques ethniques seraient contraires à l'esprit républicain français, c'est très répandu. La France, c'est pas les États-Unis. Elle est une, indivisible. Pourquoi compter les gens par ethnie, alors ? En 2015, Nicolas Sarkozy avait effectivement déclaré être en faveur des statistiques ethniques afin d'améliorer la prévention des maladies génétiques rares, notamment. Que l'on sache d'où sont les Français, aujourd'hui, cela ne change rien à la réalité de leur vie et c'est une information utile, avait déclaré alors l'ancien président. Mais il était bien seul sur ce sujet au sein de la classe politique en général. plus près de nous, pour avoir l'avis d'un partisan des statistiques ethniques, j'ai contacté l'universitaire Louis-Georges Tain, normalien agrégé de lettres, connu notamment comme le président du Conseil représentatif des associations noires de France. Sa définition des statistiques ethniques diffère quelque peu de celle admise habituellement.
Les statistiques ethniques sont un outil de mesure de la diversité d'une population, quelle qu'elle soit. En France, il y a un blocage sur ce sujet, mais qui est plus un blocage mental ou psychologique que véritablement légal, car contrairement à ce qu'on croit, elles ne sont pas interdites.
Elles ne sont pas interdites parce que dans l'esprit, on a l'article 1er de la Constitution qui nous dit que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale, et qu'elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Mais dans les faits, on a aussi la loi de 1978, Informatique et Liberté, qui nous dit qu'il est interdit de collecter ou de traiter les données à caractère personnel qui font apparaître les origines raciales ou ethniques. Donc, on est dans une espèce de flou. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Non, pas du tout. Vous avez cité exactement le bon texte. Et ce qui est important dans ce texte, c'est personnel. Les données à caractère personnel. Quand nous parlons de statistiques ethniques, nous parlons justement de données à caractère anonyme. Anonyme, c'est le contraire de personnel. Donc en résumé, ce qui est interdit, ce sont les fichiers ethniques, alors que les statistiques ethniques sont autorisées. Quelle est la différence ? Un fichier, c'est un document dans lequel vous avez les noms des personnes, parce que les personnes sont fichées, justement. Donc si je dis, j'ai un fichier, et on dit Louis-Georges Tain est noir, Madame Dupont est blanche, et un tel est arabe, ça c'est interdit. Parce que c'est un fichier, il y a des données à caractère personnel. Mais si je dis je suis allé à Paris et j'ai constaté que 10% de la population était noire, 7% était arabe, etc., là il n'y a aucune difficulté parce que ce ne sont pas des données à caractère personnel, justement. Ce sont des données anonymes et par conséquent elles sont autorisées. D'ailleurs, le problème n'est pas la question de l'ethnicité, c'est la question des données personnelles. Si par exemple je dis il y a des élections qui ont eu lieu pour les européennes à Paris, il y a eu, je ne sais pas, 15% de gens qui ont voté Front National et 12% qui ont voté pour les Verts. Il n'y a pas de problème. Si je dis voici le fichier des personnes qui ont voté Vert ou Front National, bien sûr c'est interdit. Donc ce qui est interdit, c'est les données personnelles, alors que les données anonymes sont tout à fait autorisées. C'est la différence entre un fichier, c'est illégal, et des statistiques anonymes, c'est tout à fait légal.
Et en France, du coup, on a des statistiques anonymes autour de l'ethnie et de la race qui ont lieu ?
Alors, ce n'est pas parce que c'est anonyme que c'est obligatoire. Malheureusement, beaucoup de gens croient par ignorance que c'est interdit, ou s'ils sont opposés à titre personnel, et surtout, ils ont la politique de l'autruche, ils ne veulent pas savoir de quelle façon la société s'organise. Ils ne veulent pas en réalité savoir qu'il y a une domination blanche, disons-le clairement, c'est ce qu'on appelle la suprématie blanche, ils ont la politique de l'autruche. Et ils pensent qu'en ne voyant pas la réalité en face, ça va résoudre le problème. Eh bien, il n'en est rien. Et nous, en France, depuis 2006-2007, le CRAN, nous avons lancé le débat sur les statistiques en faisant des statistiques. Nous avons fait une grande campagne, la première étude avec la Sofres, qui justement examinait le nombre de Noirs en France, comment ils se répartissent dans l'espace social, est-ce qu'ils sont plus au chômage que les autres, etc. Et évidemment, on a constaté que oui. Et ça nous a permis de lancer ce débat. Ça a fait la une du Parisien. Beaucoup de gens étaient choqués. Ils ont cru que la France allait s'écrouler le lendemain matin. Ils ont fait des crises cardiaques. Ils ont ressuscité. Mais nous avons continué. C'est ça qui est important. Et nous avons tellement continué que nous avons pu démontrer, chiffres à l'appui, que par exemple, les Noirs sont moins représentés à la télévision. Ils sont moins représentés dans l'espace public. Alors évidemment, ce n'était pas un scoop, mais il fallait le démontrer chiffre à l'appui. Et grâce à ça, d'ailleurs, ça a quand même pas mal évolué. Notamment à la télévision, le CSA, depuis 2009, à notre instigation, publie un baromètre de la diversité. Ce sont des statistiques ethniques pures et dures. Ils disent, on a regardé la télé pendant un mois, voici le pourcentage de personnes blanches et le pourcentage de personnes non blanches. Ce sont bien des statistiques ethniques, si je ne m'abuse. Bon, alors d'ailleurs, il n'y a pas que sur les origines, ils le font sur les origines sociales aussi, sur le genre et le handicap, c'est très bien. Et à partir de là, le CSA a pu dire aux chaînes, là vous avez des chiffres qui sont catastrophiques, vous devez vous améliorer. On ne vous dit pas qu'il faut arriver à un quota de 8%, 12 ou 15%, mais on dit que vous devez vous améliorer. Et effectivement, les choses se sont améliorées. C'est-à-dire que dans le dernier baromètre du CSA, on constate qu'à la télévision, les personnes non blanches sont autour de 15%, ce qui est très satisfaisant. Aujourd'hui, le problème n'est plus quantitatif, c'est un problème qualitatif. Parce que si on a toujours le noir qui fait rire et l'arabe qui fait peur, ou les noirs qui sont uniquement dans les émissions de sport et de musique et jamais dans les émissions de débat et de politique, évidemment, c'est un problème. Mais en tout cas, on a avancé et je m'en félicite.
Oui, le CSA, pour préciser, utilise le critère d'origine perçue, donc les blancs, les noirs, les arabes, les asiatiques ou autres, pour évaluer la diversité mise en scène dans les programmes télévisés en France. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est j'aimerais bien qu'on fasse un petit détour par le football. En 2018, on a révélé que le PSG avait mis en place des mentions sur les fiches de recrutement des joueurs français, maghrébins, Afrique noire, antillais, et qu'en réunion interne, on aurait évoqué un équilibre sur la mixité, comme quoi il y avait trop d'antillais et d'Africains à Paris. Donc moi, je trouve ça intéressant, parce que quand dans un lieu, on a une majorité blanche et qu'il y a des personnes non blanches qui demandent plus de diversité, souvent la réponse, c'est on a pris les meilleurs. Et quand on a une majorité de non blancs, là, ça se transforme en problème. Donc qu'est-ce que ça peut révéler de la manière, justement, dont on traduit ces résultats?
En effet, il y avait là des pratiques illégales qui ont été couvertes très vite par le gouvernement qui a blanchi tous ces gens. Mais en effet, c'était illégal parce qu'il y avait des fichiers. On a dit un tel est arabe, etc. Bon. Mais au-delà de ce point particulier, en effet, nous avons fait une enquête sur la FFF, la Fédération Française de Football, et à l'époque, je me rappelle, M. Finkielkraut avait dit l'équipe de France est black, c'est la risée de l'Europe, parce que quand il y a des noirs, c'est ridicule, apparemment. Nous avons démontré que la direction de la FFF, c'était white, et personne ne rigole. Moi, je veux bien qu'on dise il n'y a pas d'équilibre dans l'équipe de foot. Moi, je dis, du moment qu'ils gagnent, c'est quand même ce qui compte. En tout cas, dans la direction, il n'y a pas non plus d'équilibre. Pourtant, ce n'est pas les Noirs ou les Arabes qui manquent dans le milieu du football. Donc, avec ces chiffres-là, ça permet tout de suite, justement, de placer le débat là où il est. Car au niveau du gazon, oui, il y a beaucoup de Noirs, mais dès qu'on monte un peu dans la hiérarchie, c'est terminé. Et évidemment, ce n'est pas uniquement dans le football. C'est comme ça un peu partout dans la société. Il y a un plafond de verre, comme ça existe pour les femmes. Et dans ce domaine, le plafond de verre, il est parfois au niveau du plancher. C'est-à-dire, c'est le plancher collant. Et donc, nous avons milité, nous avons fait un site qui s'appelle statistiquespopulaires.fr, où nous avons fait quantité de micro-enquêtes pour montrer dans des domaines différents, le sport, le travail, les médias, la culture, que ce problème est généralisé. Donc, il faut qu'il y ait une politique générale en France, parce qu'il y a un problème général, ça s'appelle le racisme systémique.
Les opposants, en fait, aux statistiques ethniques généralisées disent que le fait de savoir combien il y a de Noirs ou d'Asiatiques en France ne résoudrait pas le problème, en fait, du racisme. Mais moi, je m'interroge aussi sur le mythe du grand remplacement, dont on a assez parlé ces derniers temps. Ce mythe qui dit qu'en fait, la majorité blanche va être à terme remplacée, en fait, par des minorités non blanches, et qui a poussé certains terroristes, notamment celui de Christchurch en Nouvelle-Zélande, à assassiner des personnes, en fait, sur ce motif. Donc 50 morts en Nouvelle-Zélande sur ce motif. Donc est-ce que vous pensez peut-être que les statistiques ethniques pourraient rétablir une certaine réalité pour contrer justement ces imaginaires?
Absolument. Déjà, ceux qui parlent de grand remplacement sont pour moi dans l'incitation à la haine raciale. Par conséquent, s'exprimer en ces termes devrait être déjà condamné. Car quand on dit nous sommes menacés de grand remplacement, donc ça veut dire qu'il faut prendre des mesures de représailles. Il faut attaquer les gens qui veulent nous remplacer. Donc il y a là un danger des gens qui sont en train de proposer une politique de nettoyage ethnique en réalité. Donc c'est très grave. Par ailleurs, pour revenir sur l'utilité des statistiques, les gens qui disent que ce n'est pas en soi une solution. Je dis, mais vous êtes en train d'expliquer à un médecin qui voudrait lutter contre les maladies, parce que les discriminations, c'est une maladie du corps social. Bon. Donc on dit au médecin, vous n'avez pas le droit d'avoir des thermomètres, vous ne pouvez pas faire de radio, vous ne pouvez pas faire d'analyse sanguine, mais vous devez guérir le malade. Bon, c'est absurde. Comment peut-on guérir le problème alors qu'on ne sait même pas l'évaluer? Si on met en place une politique contre le racisme, on ne sait pas si ça marche ou pas, et on s'interdit de le savoir. C'est-à-dire, quand je dis aux gens, y a-t-il plus ou moins de discrimination dans le pays, on ne sait pas. On ne sait même pas combien de Noirs ou d'Arabes il y a dans le pays. C'est comme si on disait, il faut lutter contre le chômage, mais on n'a pas le droit de savoir combien de chômeurs il y a. D'ailleurs, on ne sait pas s'il y a 5% de chômage ou 45%, mais on pense que ça va mieux. Je dis, mais comment pouvez-vous le savoir? C'est absurde. Vous vous crevez les yeux et vous dites, je vois que tout va bien. Non, ça ne va pas bien. Bon. Donc, il faut déjà avoir des outils, savoir si les choses s'améliorent ou pas, et à partir de là, on peut travailler d'une manière sérieuse. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis, y compris dans les entreprises, nous avons beaucoup d'entreprises où il y a, comme sur la question des femmes, des inégalités salariales à caractère racial. Simplement, comment pouvez-vous le prouver si vous n'avez pas de chiffres ? Chez Renault, par exemple, on a pu le démontrer, mais avec des chiffres. On a pris les salariés qui faisaient le même travail, on a fait des cohortes, donc par groupe ethnique, et on a constaté que les Blancs qui faisaient le travail avaient une progression salariale normale au fil du temps, et puis les Noirs et les Arabes qui faisaient le même travail, eh bien, ils étaient embauchés au SMIC et ils partaient à la retraite au SMIC. Donc là, il y a un problème. Bon. Mais si vous n'avez pas de chiffres, comment pouvez-vous le démontrer ? On peut supposer qu'il y a des discriminations chez Renault, mais vous ne pouvez pas aller devant le juge en disant « Je suppose qu'il y a des discriminations, il faut condamner Renault ». D'ailleurs, c'est le juge lui-même qui avait demandé et même exigé ces statistiques ethniques. Donc, les employés de chez Renault qui portaient plainte sont venus vers le CRAN, parce qu'ils se sont dit « Qui dit statistique ethnique dit CRAN ». On a travaillé ensemble avec la CGT, on a pris les feuilles de paix, on a fait ce travail et on a démontré qu'il y avait effectivement une discrimination générale en fonction de la couleur. Mais il n'y a pas que Renault. Il y a quantité d'entreprises où c'est comme ça. De lieux publics. Mais voyez, comment faire si vous n'avez pas les chiffres ? Et les gens qui sont contre les chiffres permettent à ceux qui discriminent de poursuivre en toute impunité.
Qu'est-ce qui fait que les statistiques ethniques posent tout de suite un blocage, alors que, comme vous disiez, on compte les chômeurs, on compte les femmes pour savoir où elles sont, à quel poste dans les entreprises ? Pourquoi la question de l'ethnie et de la race provoque un tel blocage ici en France ?
Il y a deux raisons. La première est liée à la Seconde Guerre mondiale. On a à l'esprit justement la Shoah, mais il n'y a pas de statistiques contre les Juifs qui ont été faits, c'est des fichiers. Parce que si vous êtes antisémite et que vous voulez envoyer les Juifs dans un camp de concentration, vous voulez savoir comment s'appelle telle personne, si elle est juive et où elle habite. Et là, évidemment, voilà. Mais si vous avez une statistique disant, je ne sais pas, il y a 5% de Juifs en France, vous ne pouvez rien faire. Vous avez besoin de savoir comment ils s'appellent et où ils sont. Donc, c'est les fichiers qui posent problème, encore une fois. Donc, il y a une confusion dans l'esprit des gens entre fichiers et statistiques, comme je l'ai dit. La deuxième raison, peut-être beaucoup plus importante, c'est le refus de l'évidence. Les gens ne veulent pas qu'on puisse démontrer à quel point les populations non blanches sont discriminées. Donc, on nous interdit de démontrer le problème qui est le nôtre parce qu'on veut préserver la domination blanche. C'est ça, véritablement, la raison. Ce n'est pas tellement par amitié pour les Juifs, c'est surtout par volonté de préserver la domination blanche sur l'ensemble des minorités ethniques. Donc, les gens, parfois de manière inconsciente, veulent préserver l'ordre racial tel qu'il est.
La différence cruciale se situe donc entre les statistiques ethniques qui sont anonymes et le fichage ethnique qui ne l'est pas. Mais connaître la proportion des personnes noires, asiatiques, blanches, etc. dans le but de mesurer les discriminations et promouvoir une meilleure représentation, c'est pas tout à fait la même chose. Encore aujourd'hui, le débat reste ouvert. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio, préparé par Lauren Bess et réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. programme-b@binge.audio pour nous écrire. Et à demain pour un nouvel épisode.
Binge.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi ? Qui étaient ces disparus ? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée ? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.